Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce cinquième cours. On va terminer en fait aujourd'hui tout ce qui tourne autour de ces organoïdes à proprement parler. Je pense qu'on aura vraiment fait le tour, en tout cas de ce qui à mon avis est le plus important à se souvenir. Et puis la semaine prochaine, je finirai en vous parlant d'embryoïdes, donc chose de similaire, mais un peu différent tout de même, qui est donc des nouvelles possibilités que nous avons aujourd'hui pour faire pousser des embryons en culture, à partir de cultures cellulaires, comme nous le verrons. Alors revenons très brièvement sur ce que je vous disais la semaine passée, et puis ensuite nous passerons cette leçon sur des organoïdes qui sont très intéressants, en fait, qui sont les organoïdes hépatiques. Donc à partir de foie. Et vous verrez les raisons pour lesquelles je pense que c'est particulièrement intéressant, parce que ça regroupe plusieurs choses qu'on a vues, ça fait une bonne synthèse. On parlera un peu de tumoroïdes, ça c'est les auteurs qui qualifient des organoïdes dérivés des tumeurs de foie, comme nous l'avons vu pour le côlon, souvenez-vous. On parlera d'hépatocytes humains, on parlera de la possibilité de maintenir à très long terme des cultures d'hépatocytes, ce qui évidemment, d'un point de vue thérapeutique, est extrêmement intéressant pour des transplantations. Et puis on terminera par une étude pilote, en fait, ce que je qualifiais la semaine passée comme étant un « proof of principle », donc une étude de principe, finalement, sur un syndrome génétique qui touche le foie, entre autres, qui est le syndrome d'Alagille, qui est un syndrome extrêmement intéressant puisqu'il touche une voie de signalisation dont on a déjà parlé dans d'autres systèmes, qui est la voie Notch. Alors, un tout petit mot pour vous remettre dans le flow de ce cours. La semaine passée, je vous rappelais au début l'utilisation possible des organoïdes intestinaux humains pour étudier certaines pathologies. Souvenez-vous, nous avons parlé du côlon, l'adénocarcinome du côlon, nous avons parlé de l'œsophage de Barrett, et puis ensuite, nous avons passé toute la leçon à décrire ces mini-cerveaux, appelés comme tels. Comment peut-on les produire ? Un point important, c'est l'effort qui a été fait par certains auteurs de standardiser la production de ces organoïdes, et vous verrez aujourd'hui que ce n'est pas, dans tous les cas, standardisé de la même façon. En fait, on a encore des protocoles qui ont des fréquences assez basses. Et puis, on en a parlé pour l'utilisation, pour l'étude de deux pathologies. D'un côté, une pathologie, je dirais, génétique, donc une microcéphalie, avec un problème de mutation, on en reparlera aujourd'hui. Et puis, pour certains cancers, en particulier des glioblastomes. Et puis les cinq dernières minutes, je vous ai parlé de deux, trois points qui touchaient à des questions peut-être un peu plus théoriques, un peu plus philosophiques. Développement d'un cerveau in vitro, fantasme de réalité. Ça fera peut-être l'objet d'un autre cours une autre fois. Donc, sur ces quatre dernières leçons, souvenez-vous de ce panorama de tous les types d'organoïdes que l'on peut produire chez les humains à partir de tissus humains. Nous avons parlé de cerveau, de rétine, d'œsophage. Nous avons passé beaucoup de temps à parler des intestins et du côlon. Souvenez-vous de la différenciation des cellules du pancréas. Vous verrez qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est très similaire. Dans tous les cas, dans tous ces organoïdes, on peut transposer ce schéma que je vous montrais à la fin de la leçon précédente, en fait. Et j'aimerais juste passer deux minutes, parce que c'est un point important. C'est un schéma qui a été proposé par Denis Jabaudon, un collègue à Genève, et Madeleine Lancaster. Souvenez-vous, c'est cette scientifique qui travaille sur ces mini-cerveaux à Cambridge. Et ces deux auteurs, en fait, ont proposé ce schéma extrêmement simple, mais qui est intéressant, et qui, en substance, nous dit que finalement, les organoïdes peuvent nous être très utiles pour étudier leur contrepartie corporelle, les organoïdes d'intestin pour étudier l'intestin, etc. Mais ils peuvent également être utiles de façon intrinsèque. On peut, par exemple, en comparant un organoïde sain à un organoïde malade, obtenir un champ de connaissances, on pourrait le qualifier comme ça, hein, obtenir ici un champ de connaissances qui n'a pas d'interaction avec le champ de connaissances que l'on peut obtenir en étudiant un organe sain et un organe malade. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en eux-mêmes, en fait, ces objets biologiques peuvent avoir une importance, qui plus tard peut bien entendu être répercutée sur les objets biologiques réels. Mais il ne faut pas, une chose sur laquelle je n'ai peut-être pas assez insisté quand je vous ai montré cette image, il ne faut pas se focaliser sur les organoïdes comme des outils particuliers pour étudier l'équivalent organe, en fait. Les organoïdes en eux-mêmes ont une valeur épistémique très forte. Voilà, aujourd'hui, organoïdes hépatiques, juste après le déjeuner, ça tombe bien, parce que le foie, évidemment, est un organe qui fait partie de notre système digestif. Donc, je vais vous parler un peu de comment produire ces organoïdes, de ces tumoroïdes, l'expansion à long terme, syndrome génétique à l'agile. Alors, laissez-moi dire quelques mots sur le foie, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas de connaissances vraiment fondamentales, basiques en biologie, en anatomie, en physiologie. Pour vous rappeler le premier point très important, le foie est une glande qu'on appelle amphicrine parce qu'elle est à la fois exocrine et endocrine. Elle est endocrine parce que certaines substances fabriquées par le foie sont sécrétées directement dans le sang, dans la circulation sanguine, endocrine. Et c'est aussi une glande exocrine parce qu'elle sécrète des substances qui ne vont pas directement dans le sang, qui sont collectés par des micro-canaux qui, eux, se déversent dans des macro-canaux, qui se déversent dans des grands canaux, qui se déversent dans un canal final cholédoque qui va se déverser au niveau du duodénum, déverser la bile. Ça, c'est la fonction exocrine principale du foie. Le foie a aussi une fonction de nutrition. Il est capable de produire du glucose à partir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du cholestérol, il peut fabriquer des triglycérides, il est capable de faire de la glycogénolyse. Le foie a une fonction de synthèse, il fabrique de la bile, bien sûr, à partir du cholestérol. Le foie a une fonction sanguine, c'est le foie qui fabrique les facteurs de coagulation. Il a aussi une très grande fonction pour le nettoyage du sang, en fait, tous les déchets qui sont dus à la mort des globules rouges, etc., tout ça, c'est nettoyé par notre foie. Une fonction endocrine, je vous en parlais, par exemple, la vitamine D. Une fonction que vous connaissez bien, qui est antitoxique, hein, le foie détruit les toxines, détruit les médicaments que l'on prend. Ce qu'on appelle la clairance hépatique, est capable de transformer l'ammoniac en urée. Et puis le foie, c'est aussi un stock, un endroit de stockage, notamment de la vitamine B12, et puis du fer et du cuivre qu'on récupère justement de ces déchets sanguins. Donc c'est vraiment un organe qui... Bon, évidemment, tous les organes sont importants, mais c'est un organe qui a sa place dans notre physiologie, bien entendu. Ce qui rend le foie particulièrement étonnant à certains points de vue, c'est que c'est une structure qui, chez les vertébrés, peut régénérer. Et le foie a un potentiel de régénération qui est tout à fait étonnant, puisqu'on peut pratiquement en enlever 2/3, et en fait, ça va pratiquement repousser après une hépatectomie. Vous allez avoir une repousse des parties manquantes. Alors, cela peut se produire suite à une hépatectomie. Cela peut plus souvent, en fait, se produire suite soit à des attaques chimiques, soit bien entendu à des infections virales. Et vous connaissez tous les problèmes que, suite aux infections par l'hépatite B, l'hépatite C, on a une réponse de type régénérative, en fait. C'est une attaque très sévère du foie. Lorsque l'on fait une hépatectomie, la régénération, curieusement, semble se faire par une simple réactivation mitotique des hépatocytes. sans qu'on voit vraiment une dédifférenciation ou un retour vers un état de cellules progéniteurs. Autrement dit, il semble qu'on ne va pas mobiliser des cellules très particulières, mais les hépatocytes eux-mêmes semblent être capables, donc qui sont des cellules très différenciées, bien entendu, semblent être capables de rentrer dans une... de repartir dans une phase mitotique pour recoloniser le foie. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'en fait, on peut produire un organoïde de foie à partir d'une cellule d'un hépatocyte, d'une cellule différenciée d'un hépatocyte, selon un protocole un peu compliqué, mais qui marche relativement bien. Ça doit vous rappeler en fait ce que je vous disais sur les organoïdes intestinaux, de l'intestin grêle, hein, avec une cellule LGR5, et puis plus tard, une cellule même pas LGR5, en fait, on peut faire un organoïde d'intestin. Par contre, dans le cas d'une infection virale chronique ou à une exposition à un agent toxique, on voit de petites cellules ovales qui sont localisées proches des voies biliaires et qui semblent être mobilisées et qui pourraient être des cellules souches, donc encore une fois, des cellules mères qui pourraient reproduire à la fois les hépatocytes et l'autre type cellulaire que l'on trouve dans le foie, en majorité, qu'on appelle les cholangiocytes, qui sont donc des cellules épithéliales qui forment les parois de tous ces petits vaisseaux qui ne sont pas des vaisseaux sanguins, qui sont des vaisseaux collecteurs de la bile. Il y en a partout. Évidemment, tous les hépatocytes produisent, fabriquent de la bile, et donc il y a tout un système d'arborescence pour aller drainer cette bile. Et ce système d'arborescence est fait par ces cellules qu'on appelle des cholangiocytes. Ce sont des cellules épithéliales du canal biliaire. La régénération par les hépatocytes semble donc être la voie majeure lors des hépatectomies, mais en fait, il semble, par des travaux récents, que les cellules ovales, ces cellules qui sont proches, ou qui sont peut-être même parties de cet épithélium biliaire, peuvent être impliquées et que ces cellules donc dérivent des cholangiocytes. Donc, on a un système qui ressemble un peu au système que l'on voit pendant le développement du foie. Je vais juste vous montrer une image, simplement focalisez-vous sur la partie basse ici, où l'on a à l'origine des cellules de départ, des cellules souches qu'on appelle des hépatoblastes. Généralement, le suffixe blast signifie souche. Donc on a des hépatoblastes qui se divisent, qui vont produire d'un côté des hépatocytes, donc des cellules du foie qui produisent de l'albumine, qui produisent de l'alpha-phytoprotéine pendant le développement fœtal, etc. Et de l'autre côté, des cholangiocytes qui vont former cette plaque ductale que vous voyez là et qui vont se transformer en cholangiocytes pour faire tous ces petits vaisseaux collecteurs, ces canaux collecteurs. Vous voyez qu'en fait, ces cellules-là sont capables, sous certaines conditions, de redonner des hépatocytes, ce qui n'est pas possible dans le sens inverse. Sauf si l'on manipule le système, comme on va le voir, avec des conditions particulières. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé que ces organoïdes de foie étaient intéressants, c'est, souvenez-vous, cette image que je vous montrais dès le premier cours qui concerne la source des cellules. Je vous disais qu'on peut dériver des organoïdes soit de cellules adultes, on a vu ça dans certains cas, soit de cellules fœtales, soit de cellules OS ou IPS. Eh bien, les organoïdes de foie, en fait, on peut les dériver de ces trois sources. Et je vais vous montrer un exemple de chaque aujourd'hui, un exemple de dérivation à partir biopsie de foie adulte, à partir d'une biopsie de foie ou d'une récupération de foie fœtale, ou à partir de cellules IPS d'un patient normal ou d'un patient affecté. Voilà. Donc en fait, on est dans les trois cas de figure ici, sur cette courbe que je vous ai déjà montrée. On peut les dériver à partir de cellules extrêmement précoces, des cellules IPS, à partir de cellules progénitrices fœtales, à partir de cellules souches, et, je vous montrerai en fin de cours, on peut également dériver de magnifiques organoïdes à partir de cellules cancéreuses du foie, qui, comme vous le savez, sont des cellules malheureusement extrêmement fréquentes. Première publication, qui était donc la publication initiale, encore une fois, du groupe de Hans Clevers, en Hollande, qui fait une tentative de dérivation à partir de cellules adultes. Donc le protocole est relativement simple. Une biopsie qui est faite sur un patient, évidemment, d'un morceau d'à peu près 1 cm cube. Ce morceau est traité à la collagénase, c'est-à-dire c'est une enzyme qui va digérer le collagène, donc qui va fragiliser le morceau de tissu, les cellules vont commencer à se relâcher, on va faire une pseudo-suspension. Et puis, les auteurs vont mettre entre 3 et 10 000 cellules avec du matrigel, bien entendu, toujours ce matrigel liquide. On va laisser ce matrigel se solidifier, donc on va avoir une sorte de goutte solide avec ces cellules à l'intérieur. Et puis on va faire une culture qui est une culture non attachante. Donc ce n'est pas vraiment un bioréacteur, mais il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de collage. Puis cette culture va faire un gros organoïde qu'on appelle un organoïde de type 1. Et puis il va falloir passer un organoïde de type 2 qui va demander un réétalement de ces cellules. C'est là où il y a une différence avec les protocoles dont je vous ai parlé jusqu'à présent. En fait, on va devoir passer d'un milieu pour arriver à cet organoïde à un autre milieu pour arriver à cet organoïde. On va parler ici d'une expansion, parce que c'est un milieu qui va principalement permettre de faire pousser ces organoïdes qui n'en sont pas encore. Et puis ensuite, on va les changer ici. On va mettre un milieu de différenciation. Et là, les organoïdes vont commencer à se différencier. Alors, comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'aller dans la cuisine, de regarder un peu la recette. Hein. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais je vous ai mis à gauche les points importants. Une biopsie, digestion enzymatique, matrigel, 3 000, 10 000 cellules. Je vous parle toujours de recettes de cuisine, mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à la littérature scientifique, c'est vraiment une recette de cuisine. En fait, dans les publications, généralement, on a une recette courte et puis on a toujours un renvoi à un site internet sur lequel les auteurs ont vraiment mis la recette extrêmement détaillée. Et c'est maintenant une obligation, en fait, de publication. Il faut absolument que les gens puissent refaire ce qui a été fait dans la publication en suivant le protocole. Milieu de culture. Alors là, vous voyez que c'est un milieu extrêmement enrichi. Gastrine, on en a déjà parlé. De EGF, souvenez-vous, Epidermal Growth Factor, qui est ce facteur qui se lie à ces récepteurs qui sont mutés dans les glioblastomes dont on discutait la semaine passée. Vous avez du FGF10, facteur de croissance. Hepatic Growth Factor, un facteur de croissance spécifique au foie, facteur de croissance de la force colline qui augmente la quantité d'AMP cyclique qui fait croître les cellules. Donc c'est vraiment un milieu qui encourage la croissance, un milieu d'expansion. Les cellules vont se diviser. Et puis ici on arrête, c'est la fin de la première étape, et on va passer sur un autre milieu. En enlevant le matrigel, en mettant de la matrice fraîche, on passe sur un autre milieu avec des composants légèrement différents et puis on va pouvoir différencier ces organoïdes. Ces cellules, elles viennent d'où ? Alors, vous voyez une image ici qui semble un peu compliquée, en fait, qui est très simple. Je vous en ai déjà parlé. Lorsque vous prenez un foie et que vous faites une suspension cellulaire, eh bien, vous pouvez mettre ces cellules dans un trieur de cellules. C'est une machine qui va trier les cellules, les cellules vont tomber de haut en bas et la machine va les faire partir à gauche, à droite, selon des paramètres que vous pouvez fixer vous-même. Ça peut être la forme des cellules, ça peut être leur fluorescence, etc. Quand vous triez des cellules de foie, vous voyez, vous obtenez plusieurs populations. Vous avez cette population-là, cette population-là, là, cette population-là. Et ces populations, vous pouvez les caractériser. Dans ce cas particulier, les auteurs caractérisent deux grandes populations. Il y a une population qui est positive pour un marqueur qui s'appelle la CAM épithéliale, autrement dit Epithelial Cell Adhesion Molecule. C'est une molécule qui est à l'extérieur, que l'on trouve très souvent dans les cellules épithéliales et qui est utilisée pour que ces cellules se collent les unes aux autres. Ce sont des adhésions homophiliques entre cellules épithéliales. D'accord ? Ces cellules EpCAM positives sont évidemment des cellules épithéliales du foie, donc des cellules ductales. Ce sont ces cellules qui fabriquent tout ce réseau de petits canaux qui vont récolter la bile. Cette population de cellules-là, cette grande population, ce sont les hépatocytes. Alors vous pouvez vérifier ça en utilisant quelques marqueurs. Prenez par exemple l'albumine en rouge. L'albumine, c'est vraiment une protéine. C'est une des fonctions majeures des hépatocytes, c'est de fabriquer de l'albumine. Eh bien, vous voyez que vous ne trouvez de l'albumine en rouge que dans ces cellules-là. D'accord ? Les cellules qui sont ici, qui ont été séparées, n'ont pas de rouge, donc elles n'expriment pas d'albumine. Ce ne sont pas des hépatocytes. Maintenant, vous pouvez prendre un marqueur qui est une kératine 19, qui, elle, est typique des cholangiocytes, de ces cellules épithéliales. Et vous voyez, sans surprise, que ces cellules-là ont ce marqueur vert, alors que les hépatocytes ne l'ont pas. Donc ça vous contrôle, en fait, la qualité de votre triage. Oui, ces cellules ont été bien triées. J'ai d'un côté les hépatocytes, de l'autre côté, les cholangiocytes. Maintenant, ce que vous voyez à droite ici, c'est le résultat. Vous voyez que seuls les cholangiocytes sont capables de faire des organoïdes. Les hépatocytes en sont incapables. Pour faire des organoïdes à partir de ces cellules-là, il faut alors changer le milieu, rajouter quelque chose, et là, on va pouvoir les pousser à se différencier. Mais avec le premier milieu, ce milieu d'expansion, on voit que seules ces cellules ductales sont capables de faire des organoïdes. Vous voyez que la fréquence n'est pas si mal, hein, 28%. Alors encore une fois, ce n'est pas toujours facile de savoir 28% de quoi. Est-ce que c'est 28% des cellules triées, 28% des cellules triées qui expriment la kératine, etc. Ou... Bon, enfin, ça a l'air relativement correct. Donc là, vous voyez ces deux étapes. Avant le changement de milieu, milieu d'expansion. Après le changement de milieu, milieu de différenciation. Et vous voyez que vous obtenez jusqu'à ce point-là, vous obtenez des organoïdes qui n'expriment aucun des marqueurs d'hépatocytes. Ce sont des sortes de cystes que l'on peut garder extrêmement longtemps. Et lorsque vous rajoutez à ce milieu certains composés, alors en particulier, il faut rajouter cette fameuse molécule de BMP, qui, souvenez-vous, que l'on inhibe toujours avec cet inhibiteur qu'on appelle Noggin, dont je vous ai beaucoup parlé, en fait. Donc on inhibe ici, on ne différencie pas. Soudainement, on enlève les inhibiteurs, on met des facteurs de différenciation, et là, on pousse la différenciation. D'accord ? C'est ça un peu le jeu, en fait. Hein. On freine. Soudainement, on enlève tout ce qui freine, on rajoute des facteurs de différenciation et les cellules acquièrent des morphologies d'hépatocytes et commencent à exprimer des marqueurs des hépatocytes. D'accord ? Donc ces cystes, vous voyez qu'on peut les garder pendant des mois, pratiquement. Et dès qu'on enlève les stimuli de croissance, notamment la force choline, donc, pour les experts parmi vous, qui est un stimulateur de la production de l'AMP cyclique, donc c'est quelque chose que l'on met pour encourager la croissance des cellules. Lorsqu'on enlève ça, les cellules repartent vers un destin différencié, vers un destin biliaire. Okay. Si Notch est bloqué, en présence de BMP, on rajoute du FGF19, d'adexamétasone, les cellules se différencient en hépatocytes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette recette de cuisine. Encore une fois, c'est totalement inutile de se souvenir de tous ces termes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui un contrôle des conditions de croissance in vitro qui permet de jouer avec On pousse sans différencier, on pousse sans différencier, on pousse plus, on différencie, ou on pousse un peu des deux, etc. Donc on arrive à moduler ces actions qui sont des actions antinomiques pour pouvoir produire une quantité de matériel et ensuite faire des organoïdes. Alors comment est-ce que l'on peut les caractériser par la suite ? Bien, c'est assez simple, on retombe toujours dans les mêmes types d'analyses que je vous ai déjà présentées pour d'autres types d'organoïdes. Vous voyez ici sur la gauche des organoïdes qui sont en milieu d'expansion, donc qui poussent mais qui ne sont pas différenciés. Ici des organoïdes en milieu de différenciation. Et ici vous avez un morceau de tissu contrôle, un morceau de tissu de foie. Et regardez par exemple le gène LGR5. Le gène LGR5, vous vous en souvenez dans l'intestin, c'est un gène qui fonctionne dans les cellules souches, donc dans les cellules très peu différenciées, dans l'intestin, dans le foie. C'est un gène de non-différenciation. Eh bien, vous voyez qu'il est très élevé, il fonctionne beaucoup avant qu'on change de milieu. On change de milieu, hop, il descend. Et vous voyez qu'il est très bas dans le tissu, évidemment, heureusement, dans le tissu adulte, il y a très peu d'expression du gène LGR5. Lorsque vous regardez l'albumine, qui, elle, est un marqueur de différenciation, est exprimée par les hépatocytes, eh bien vous voyez qu'avant la différenciation, il y en a peu. Dès que vous changez le milieu, vous mettez dans un milieu de différenciation, hop, ça monte. Et évidemment, c'est très élevé dans le tissu adulte, puisque c'est la fonction des hépatocytes. Pareil pour KRT19, pareil pour CYP. Alors, ce que vous voyez sur la droite, c'est en fait une étude qui est un peu plus moderne, qui est un peu plus globale, qu'on appelle à haut débit, en jargon, une étude à haut débit. C'est simplement ce que vous voyez sur la gauche, mais au lieu de concerner 4 gènes différents, ça concerne une centaine de gènes différents. Et en fait, le code de couleur est extrêmement simple. Quand c'est rouge, le gène fonctionne très fort. Quand c'est vert, il ne fonctionne pas. Puis vous avez des variantes entre les deux. Et chaque ligne correspond à un gène particulier. C'est donc une analyse globale, en fait. Et donc vous voyez que le tissu hépatique, un morceau de foie disséqué, vous avez sur la gauche ici une série de gènes qui sont tous exprimés de façon très, très forte. Donc c'est des gènes qui ont été choisis pour ça. Vous voyez que ces gènes dans le milieu d'expansion sont en fait peu exprimés. Et quand vous regardez dans le milieu de différenciation, vous voyez que la plupart de ces gènes, pas tous, mais la plupart de ces gènes sont réactivés en fait. Et c'est ce genre d'analyse qui permet de dire, oui, effectivement, ces organoïdes, vous voyez ici, il y a 4 cultures d'organoïdes différentes, là il y en a 5 dans le milieu d'expansion, il y a 4 morceaux différents de foie. On peut dire, oui, effectivement, cette partie-là, en quelque sorte, ressemble plus à celle-ci qu'elle ne le ressemble à celle-là. Donc en fait, ces organoïdes sont pas mal. Il y a quand même pas mal de gènes qui sont spécifiques aux hépatocytes, qui apparaissent, qui fonctionnent dans ces organoïdes. Vous voyez en particulier, vous voyez ici l'albumine. L'albumine, vous voyez qu'il est très fort dans un peu moins fort dans deux, et puis il n'est pas exprimé dans un. Vous voyez, encore, il y a une variabilité. Hein. Ce n'est pas toujours. On n'est jamais dans du 100%. Hein. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, cette culture-là, il y a dû avoir un problème, parce que vous voyez, toute cette série de gènes ici ne sont pas comme là, en fait. Hein. Ils ne sont pas activés. Donc, vous voyez que ça dépend, souvenez-vous, on en parlait la semaine passée, ça dépend des batchs. Parfois, un jour, vous faites pousser une culture d'organoïdes, et cette culture particulière, dans l'entier, ne ressemble pas exactement aux autres. Mais vous voyez typiquement ici, hein, là vous avez 4 cultures d'organoïdes, de foie, vous en avez 3 qui se ressemblent passablement pour l'expression des gènes, et puis celle-ci, c'est ce qu'on appelle un outlier, hein, c'est quelque chose qui ne ressemble pas aux 3 autres en fait. Voilà. Alors, Ces organoïdes sont en fait utilisés actuellement pour essayer de comprendre plusieurs questions que pose le développement tumoral du foie. Et c'est un travail qui, ici, a été fait par Merixel Hooch, qui est en fait la fille qui a fait comme premier auteur le travail que je vous ai présenté tout à l'heure chez Hans Clevers, qui a maintenant son laboratoire. Et je voulais vous en dire un mot parce que vous allez voir que c'est quand même assez étonnant la correspondance que l'on peut avoir entre ces tumoroïdes, comme ils les appellent, et les tumeurs de départ, les tumeurs primaires de départ. Alors, pour vous rappeler rapidement, il y a en fait trois types de tumeurs principales dans le foie. Il y a évidemment les carcinomes hépatocellulaires, les hépatocarcinomes, qui sont tout de même la cinquième cause de tumeurs chez les hommes, septième chez les femmes. C'est à peu près 500 000 cas par an. Des tumeurs assez agressives, c'est très souvent celles qui sont associées aux infections par l'hépatite B et l'hépatite C. C'est des tumeurs qui font suite à toutes sortes de cirrhoses différentes. Ce sont évidemment des tumeurs qui dérivent des hépatocytes, hépatocarcinomes. Il y a aussi des tumeurs de l'autre type cellulaire, des cholangiocarcinomes, c'est-à-dire des tumeurs épithéliales qui, elles, dérivent du développement anarchique, de la reproduction anarchique des cellules des cholangiocytes, donc des cellules qui font ces petits canaux collecteurs de la bile. Et puis, vous avez des tumeurs des deux types, qui sont des hépatocarcinomes et des cholangiocarcinomes combinés, qu'on appelle CHC ou CC ou HCC. Alors, ce qui a été fait dans cette étude, je trouve assez intéressante finalement, c'est d'essayer de calibrer le système pour voir si on pouvait utiliser ces organoïdes comme modèle thérapeutique pour faire des criblages, pour essayer des médicaments, etc. Et donc un besoin d'essayer au maximum d'établir une équivalence entre le départ et l'arrivée. Et c'est pas si simple. En fait, c'est pas si simple. La façon dont c'est fait, c'est la suivante. On fait une biopsie de foie des patients. Alors, je dois dire que tous ces patients, en fait, sont des patients qui en sont à des stades de développement de la tumeur qui nécessitent des transplantations du foie. Donc, il n'y a pas de problème vraiment éthique ou quoi que ce soit. Donc, biopsie de la tumeur. Et cette tumeur, en sortie de biopsie, évidemment, elle est analysée, caractérisée. On la coupe. On regarde à quoi elle ressemble, on prend l'ADN, on regarde quelles mutations il y a à l'intérieur, on prend l'ARN, on regarde quels sont les ARN qui sont exprimés, on regarde quels sont des antigènes particuliers au moyen d'anticorps, etc. On fait vraiment une sorte de diagnostic maximum, tout ce qu'on peut faire pour caractériser cette tumeur. Et puis en parallèle, on dérive des organoïdes. Et puis ces organoïdes, une fois qu'ils sont obtenus, eh bien, on refait les mêmes tests. Donc, on fait un diagnostic, si vous voulez, qui est un diagnostic sur la biopsie qui est pré-organoïde et un diagnostic qui est post-organoïde. Et la question qu'on se pose est très simple, c'est est-ce que pendant toutes ces semaines, tout ce travail, ce passage en culture, ces milieux, ces cytokines, etc., est-ce que l'on va retrouver à la fin des caractéristiques de ces tumoroïdes qui sont les mêmes que celles de la tumeur de départ, ce qui est évidemment essentiel si l'on veut faire quoi que ce soit avec ces tumeurs. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est un exemple assez simple, finalement. Vous voyez ici trois exemples de tumeurs. Donc, une tumeur de type HCC, donc un hépatocarcinome classique, une tumeur de type cholangiocarcinome. Ici, vous voyez, on voit déjà qu'il y a des structures épithéliales là, hein, qu'on ne voit pas ici, parce que c'est une tumeur épithéliales, en fait. Ce sont les cellules qui font les petits tubes hein, qui font la tumeur. Et puis un mélange ici, une tumeur de hépatocarcinome, cholangiocarcinome combiné. Sur la gauche, ici, vous voyez un morceau de foie équivalent d'une personne saine, une belle tranche de foie, c'est coloré à l'éosine hématoxyline, une coloration classique. Et je pense que vous voyez immédiatement l'aspect tumoral de ces sections, hein, des noyaux denses, des petites cellules rondes, etc. Enfin, voilà. Alors, à partir de ces tumeurs, on dérive des organoïdes. Et vous voyez ici les trois types d'organoïdes qu'on obtient. Ici, vous voyez l'organoïde qui est obtenu, ce cyste qui est obtenu à partir du foie normal, où on a un lumen, donc cette grande ouverture qui a du liquide dedans, hein, c'est une sorte de boule de liquide, et qui est entourée par des cellules ductales, donc des cellules de type épithéliale. Ça, c'est le stade du cyste, hein, souvenez-vous, c'est le stade du cyste, on n'a pas encore mis tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Mais regardez, déjà à ce stade, vous voyez que c'est l'anarchie ici. Hein. Vous voyez, ces organoïdes sont totalement différents. On voit que ça pousse de tous les côtés. Mais néanmoins, on arrive à avoir quelques structures. Par exemple, ici, vous voyez une rosette, ce qu'on appelle une rosette, qui est une sorte de structure pseudo-glandulaire. On a l'impression que cette tumeur essaie de faire des glandes. Ici, on essaie de faire une sorte de lumen glandulaire. Donc ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne peut pas contrôler cet aspect tumoral en dérivant des organoïdes. Ça, c'est plutôt bien. Il semble que les organoïdes conservent cet aspect anarchique dans le développement. J'ai mis ici un extrait des méthodes pour vous montrer une chose très intéressante, en fait. C'est que le succès de dérivation de ces tumoroïdes dépend grandement de l'index de prolifération des tumeurs de départ, en fait. Autrement dit, peut-être arriverez-vous à lire, mais si vous prenez une tumeur qui est très agressive, vous aurez pratiquement 100% d'organoïdes. Ce sera extrêmement facile. À l'inverse, si vous prenez une tumeur qui est beaucoup moins agressive, ce sera beaucoup plus difficile de dériver des organoïdes. Donc, rien qu'à la fréquence à laquelle on peut dériver ces organoïdes, on peut déjà se faire une idée, en fait, si ça correspond à l'agressivité de la tumeur, finalement. Et le deuxième point que je trouve particulièrement intéressant, c'est en fait que ces tumeurs, finalement, lorsqu'on regarde toute une batterie de marqueurs, on s'aperçoit que ces tumeurs correspondent à des stades dans le développement de ces organoïdes. Autrement dit, une tumeur qui sera très agressive, très peu différenciée, va exprimer une collection de marqueurs qui va correspondre à un stade d'organoïde précoce. Et on voit ça ici, en fait, avec ces organoïdes dérivés qui correspondent à ces tumeurs-là, où, sans rentrer dans le détail, hein, où on voit l'expression de marqueurs qui, en fait, exactement correspondent aux marqueurs que l'on voit dans ces organoïdes, au stade correspondant. Donc on a ici des cellules souches, et le plus vous avancez vers la fin des organoïdes, le plus vous allez différencier ces organoïdes, soit vers la voie cholangiocyte, soit vers la voie hépatocyte. Okay. Et le long de cette différenciation, vous allez exprimer des marqueurs, des protéines différentes. Par exemple, j'ai noté ici un marqueur qui est un anticorps qui est spécifique pour les hépatocarcinomes, HEP-PAR1, ou bien encore une fois, cette molécule d'adhésion HEPCAM, positif-négatif, vous allez donc différencier ces deux types de cellules, cholangiocytes, hépatocytes, et quand vous regardez ces tumeurs, en fait, vous avez les mêmes différences dans les types de tumeurs. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis un exemple d'analyse de ces marqueurs. Ce que vous voyez, en fait, c'est assez simple. Vous avez ici HCC, donc un hépatocarcinome, un deuxième hépatocarcinome. Ici, vous avez une tumeur combinée. Ici, vous avez une autre tumeur combinée et puis un cholangiocarcinome et un cholangiocarcinome. Donc, vous avez deux hépatocarcinomes ici, deux tumeurs mélangées, deux cholangiocarcinomes. Et ce que vous regardez là, c'est un marqueur qui est typique pour les hépatocarcinomes. Alors, bon, il est faible ici, il devient très fort ici, il est négatif ici. Okay. Inversement, vous regardez ce marqueur qui, lui, est typique des cholangiocarcinomes, vous voyez qu'il est très fort ici et il est nul ici. Et ces deux types de tumeurs-là, celle-ci et celle-là, qui sont des tumeurs mixtes, évidemment, des marqueurs mixtes, parce que ce sont des tumeurs mixtes. Hein. Donc vous voyez à la fois ici ce marqueur-là et ce marqueur-ci, alors qu'en fait, ce n'est jamais le cas ici. Vous voyez soit l'un, soit l'autre. D'accord ? Et vous pouvez suivre ces organoïdes de cette façon-là. Alors non seulement ces organoïdes conservent ces distributions de facteurs, de marqueurs, mais ce qu'il y a peut-être de plus important, c'est qu'ils conservent les mutations génétiques. Pourquoi c'est important ? Parce que vous savez sans doute que dans des développements tumoraux, il y a très souvent des développements de ce qu'on appelle des aneuploïdies, ou des mutations qui se rajoutent, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a plus de réparation, c'est l'anarchie. Et donc, on ne sait jamais si ce qu'on voit est en fait la cause du problème ou si ce sont des problèmes qui sont rajoutés sur une cause initiale. Et donc, quand vous partez d'une tumeur, une biopsie de foie, et que pendant des semaines, des mois, vous allez produire ces organoïdes pour faire des analyses, il faut absolument être sûr que vous n'allez pas rajouter dans votre système de culture des modifications, parce que si vous le faites, quand plus tard vous allez par exemple essayer une drogue ou faire un criblage pour une molécule, il faut être absolument certain que vous allez cribler sur le même matériel qui est le matériel du patient. N'est-ce pas ? Donc il s'agit de vérifier au niveau, cette fois, non pas des ARN, mais de l'ADN lui-même, s'il y a eu des altérations. C'est quelque chose qui est à la fois très simple et très compliqué. C'est très compliqué si on veut le faire d'une façon vraiment formelle, mais c'est relativement simple si l'on veut le faire d'une façon un peu ciblée, en se disant, on connaît 100, 200, 300 gènes qui sont vraiment toujours impliqués dans des développements de tumeurs. Essayons de se focaliser un peu sur ceci pour voir où on en est. C'est ce qu'ont fait ces auteurs. Et vous voyez ici le type de résultat qui est obtenu. Alors encore une fois, vous avez dans ce cas-là un hépatocarcinome. Et quand vous avez le T, c'est la tumeur de départ, c'est le tissu. Donc biopsie, on extrait l'ADN. Il est fixé, il ne change plus. Ensuite, on va cultiver ces organoïdes. Et puis, des semaines plus tard, on fait le O ici. Donc, on prend ces organoïdes qui correspondent à cette tumeur de départ. On extrait l'ADN, on fixe, on extrait l'ADN. Et maintenant, on a ces deux échantillons d'ADN. Un qui vient de la tumeur de départ, un qui vient des organoïdes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont conservé les mêmes types de mutations ? Et vous voyez qu'en fait, il semble que ce soit le cas. J'ai mis ici en rose là, trois gènes qui sont particulièrement importants dans des tas de tumeurs qui sont très souvent mutés dans ces tumeurs. Un gène qu'on appelle P53 ici, un gène qui s'appelle CRAS, et puis un gène qui s'appelle CTNNB1. Et vous voyez qu'en fait, les mutations se trouvent dans les mutations de départ dans T, on la retrouve dans O, TO, TO. Vous voyez qu'il n'y a aucun autre de ces gènes, de ces oncogènes ou de ces gènes qui sont généralement associés à des développements tumoraux, qui ont été soit qui étaient mutés au départ, qui ne le sont plus à l'arrivée, ou qui n'étaient pas mutés au départ et qui l'ont été à l'arrivée, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'il semble que ce soit relativement stable. D'accord ? Ah, encore une fois, hein, c'est vraiment un critère qui est un prérequis. Si on si on commence à rajouter des mutations, il est hors de question qu'on puisse ensuite faire des tests de quoi que ce soit. Donc ça perd toute l'utilité. Mais vous voyez qu'en fait, sur ce tableau, il n'y a pratiquement pas d'exception. Vous voyez que des tumeurs différentes ont des mutations différentes. Mais ces mutations-là, on ne les retrouve pas dans une tumeur qui, au départ, ne les avait pas. D'accord ? Donc, chaque tumeur garde son truc, hein, son ADN. J'ai mes petites mutations, je les garde. Alors, la question suivante, bien sûr, c'est de savoir si ces organoïdes peuvent être utiles dans une approche thérapeutique, par exemple pour faire la recherche de molécules, pour faire des tests de résistance, etc., etc. Et je dois dire que pour l'instant, c'est encore une étape très précoce, mais les résultats sont assez prometteurs. Et je voulais juste vous montrer un type de résultat. Encore une fois, ça semble compliqué. En fait, c'est très simple. Vous voyez ici un tumoroïde, une de ces organoïdes de tumeur, qui sont dérivés d'un hépatocarcinome, vous voyez ici. Donc vous avez ici un hépatocarcinome, deuxième hépatocarcinome, tumeur mixte, cholangiocarcinome. D'accord ? Donc c'est six tumeurs qui viennent de six patients différents, qui ont été poussés en organoïdes, et on va appliquer sur ces tumeurs des molécules qui soit ont marché ou n'ont pas marché chez le patient. Parce qu'évidemment, là, on est des mois plus tard, le patient il a commencé à se faire traiter dans l'intervalle. Hein. Et prenez par exemple cette molécule-là, la gemcitabine, qui est une drogue qui est utilisée en chimiothérapie, qui touche la réplication de l'ADN. Donc, si vous voulez, c'est une drogue qui va empêcher les cellules de se diviser en bloquant la multiplication de l'ADN. C'est une drogue assez dure. Eh bien, vous voyez que le patient qui souffrait de cette tumeur, le patient dont ces organoïdes ont été dérivés à partir de la tumeur duquel les organoïdes ont été dérivés, hein, ces organoïdes dérivent de la tumeur de ce patient-là, vous voyez que ce patient n'a pas répondu à ce traitement. C'est blanc. Par contre, cette tumeur-là, le patient qui portait cette tumeur-là, a lui répondu à ce traitement. D'accord ? C'est ça la clé de description du tableau. Et si vous regardez blanc, rouge, blanc, rouge, rouge, blanc, bien ici, vous avez organoïde, pas d'organoïde, organoïde, pas d'organoïde, pas d'organoïde, organoïde. D'accord ? Donc, il semble qu'il existe une correspondance que vous pouvez retrouver aussi ici. Hein. Vous voyez qu'en fait, vous avez les cases vides ici, c'est-à-dire les cases où les organoïdes ont disparu ou ont été attaqués ou ont régressé en présence de la drogue. Vous voyez que cette distribution de ces cases est très similaire à la distribution de ces carrés rouges. La conclusion, c'est qu'effectivement, il semble que ces organoïdes répondent à ces traitements de chimiothérapie et par conséquent, ça commence à devenir intéressant puisque on peut espérer peut-être pouvoir étudier des phénomènes qui sont extrêmement difficiles à étudier chez le patient. Par exemple, les phénomènes d'acquisition de résistance. Et c'est vrai que si on pouvait vraiment faire confiance à ces systèmes alternatifs pour essayer toutes sortes de molécules, faire les deux molécules, des chimiothérapies combinées, pour voir ce qu'on peut rajouter, ou en même temps, ou juste après, ou juste avant, pour essayer de vraiment de se débarrasser de ces organoïdes, dans ce cas-là, il y a vraiment un retour presque immédiat sur le traitement du patient. Et ça, ce sont des études qui sont en cours. Je pense qu'elles sont intéressantes à mentionner. Donc ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer. Hein. Blanc, rouge, blanc, rouge, rouge, blanc. Organoïde, pas d'organoïde, plus, moins, moins, plus. Donc ça, ce sont pour des organoïdes et des tumoroïdes qui sont dérivés en grande partie des cholangiocytes, donc de ces petites cellules ovales, cellules épithéliales, et qui sont capables, elles, de redonner à la fois des hépatocytes et des cholangiocytes. La question suivante que sont posées les gens qui travaillent dans ce domaine, c'est mais est-ce qu'il ne serait quand même pas possible de produire des quantités massives d'hépatocytes, parce que c'est ça dont on a besoin en cas de greffe ou de régénération, pour pouvoir réintroduire chez le patient, non pas des organoïdes épithéliaux, etc., mais vraiment des grandes concentrations d'hépatocytes. Et ça, c'est un travail assez récent, 2018, où finalement, toujours ce même laboratoire de Hans Clevers a réussi à mettre au point un protocole pour vraiment produire des grandes quantités d'hépatocytes à partir, comme vous allez le voir, d'un hépatocyte unique. Donc, reprogrammation des hépatocytes adultes en cellules progénitrices. Ça, on savait qu'il y avait certaines transdifférenciations, mais le problème était vraiment le développement d'un protocole pour obtenir des hépatocytes à long terme à partir d'hépatocytes et non pas à partir d'autres cellules. Et puis, je vous montrerai également dans deux minutes que, en fait, ces hépatocytes sont capables de coloniser le foie d'une souris, ce qui est une autre preuve de principe, en fait, qu'on pourrait peut-être à terme réintroduire ces organoïdes d'hépatocytes, finalement, chez le patient. Protocole, maintenant, vous le connaissez bien. Hein, la différence ici, c'est qu'au lieu de prendre une biopsie et de traiter cette biopsie avec de la collagénase, comme on le faisait auparavant, eh bien, on va le faire par une perfusion. Ce n'est pas excessivement agréable pour cette souris, probablement, mais on va perfuser cette souris, ce qui fait que les cellules ne vont même pas sortir in vitro, donc elles vont être en bien meilleure condition, en fait. On va commencer le traitement dans la souris. C'est ça ce que ça veut dire. On va récolter des hépatocytes, uniquement des hépatocytes, les mettre en culture, expansion, passage, changement de milieu, perfusion en collagénase, triage des hépatocytes, je vais revenir là-dessus dans une minute. Cette fois, on met 20 000 cellules par puits avec matrigel, solidification, à peu près la même recette que je vous montrais tout à l'heure, changer le matrigel, 400 microns, etc., croissance relative. Vous voyez ici, 1% des hépatocytes, hein, une efficacité qui est basse. Mais dans le fond, quand on pense au nombre de cellules qu'on peut obtenir à partir d'une biopsie de foie, finalement, 1%, c'est encore énorme. Je veux dire, c'est plus que ce dont on a besoin pour faire pousser autant d'organoïdes dont nous avons besoin. Alors voilà à quoi ces organoïdes ressemblent, si c'est un agrandissement. Là, vous avez trois types d'organoïdes qui viennent de trois souris différentes, une fréquence très basse, à peu près 1%. Vous voyez ici, hein, ça c'est les nombres réels à partir de 10 000 cellules. Et l'idée, souvenez-vous, on en a discuté avec LGR5, c'est de se dire comment peut-on être sûr que ces organoïdes, effectivement, sont produits à partir d'hépatocytes. Comment peut-on être absolument sûr qu'on n'a pas dans les hépatocytes qu'on a sortis de cette souris 10%, 15%, 20% de cellules, des cholangiocytes, des cellules qui viennent d'ailleurs, et que ce sont ces cellules-là qui sont à l'origine de ces organoïdes. Et donc, pour répondre à cette question, ce groupe fait ce qu'il avait déjà fait avec le LGR5, mais cette fois avec de l'albumine. Donc c'est très simple finalement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un gène qui ne fonctionne que dans les hépatocytes. Et le meilleur exemple, le plus simple, c'est évidemment l'albumine. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent derrière ce gène un ARN, un morceau d'ADN qui va, au lieu de fabriquer de l'albumine, va fabriquer une protéine qui va, cette fois, donner une coloration rouge plutôt qu'une fluorescence jaune. C'est ce qu'on appelle une tomato. Donc on a ici ce qu'on appelle un rosa tomato. Si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous raconte, mais comprenons-le comme ça. Si vous voulez, c'est un marqueur rouge qui est quelque part dans le génome de ces souris. Et quand vous leur donnez à boire quelque chose, ce quelque chose va aller déclencher un signal qui va activer ce rouge que dans les cellules qui expriment de l'albumine. C'est un peu compliqué, c'est de la cuisine moléculaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que seules les cellules qui fabriquent de l'albumine sont rouges. Aucune autre cellule ne peut être rouge. D'accord ? À partir de là, vous pouvez demander à votre trieur de cellules de vous trier les cellules rouges, et vous allez avoir une bonne population de cellules rouges, qui sont toutes des cellules qui sont des hépatocytes. Et donc, vous pouvez choisir une de ces cellules rouges que vous voyez là, et à partir de cette cellule, fabriquer des organoïdes. Vous voyez que c'est assez rapide. En 3 semaines, vous avez ce bel organoïde. Évidemment, dans ce cas-là, on est sûr à 100% que cette structure est dérivée d'un hépatocyte. Les hépatocytes sont quand même des cellules, peut-être ne l'ai-je pas dit, mais qui ne se divisent pas dans le foie. Ce sont des cellules dont la seule fonction est de détoxifier, de produire et de mourir sous les coups de tout ce que l'on va manger, des toxines qu'on va envoyer, etc. Ce sont des cellules qui, en principe, ne se divisent pas. Eh bien, vous voyez que ces cellules sont absolument capables de produire de magnifiques organoïdes. Donc, des hépatocytes différenciés qui expriment de l'albumine peuvent être à l'origine d'organoïdes hépatiques. Ces organoïdes, on peut les différencier. Alors, vous voyez ici une coloration à l'albumine en vert. Vous voyez que ces cellules expriment toutes de l'albumine. Ici, vous voyez l'équivalent d'un organoïde qui provient d'un cholangiocyte. Donc cette fois, c'est poussé à partir d'un cholangiocyte. Aucune trace d'albumine. Vous voyez, c'est une trace de kératine qui est typique pour c'est la kératine 19 qui est typique pour les cholangiocytes. Et puis, on peut faire des dosages sur ces organoïdes. Vous voyez par exemple que ces organoïdes d'hépatocytes produisent une protéine qui est une protéine extrêmement intéressante qui s'appelle l'alpha-phytoprotéine, qui est une protéine qui normalement est produite par le foie que chez le foetus. Et c'est une protéine intéressante parce qu'elle est très souvent réactivée dans les tumeurs du foie, ce qui suggère en fait que ces tumeurs justement sont des cellules qui retombent dans un état fœtal en quelque sorte, un état de croissance, alors que les hépatocytes matures ne croissent plus. Vous voyez ici l'alpha-phytoprotéine, AFP, très fortement présente dans les hépatocytes de type, dans les organoïdes de type hépatique, totalement absente dans les organoïdes de type cholangiocyte, qui sont en vert. Vous voyez pas de vert, parce que ce sont tous des marqueurs d'hépatocytes. Donc c'est extrêmement spécifique, en fait. Et là encore, on peut prendre cette analyse à un niveau à haut débit, que maintenant vous connaissez bien, donc je peux passer dessus rapidement. Vous voyez ici au milieu, cette bande-là, eh bien, c'est encore une fois une centaine de gènes. Chaque ligne est un gène. Et ce que vous voyez, c'est... Cette bande centrale, ce sont des hépatocytes témoins. Donc c'est un morceau de foie normal qui est coupé. On regarde l'expression de ces gènes. Et vous voyez en haut, en rouge, ici, sont des marqueurs hépatiques. Par exemple, l'AFP, l'alpha-phytoprotéine, ici. L'albumine, vous avez ici. C'est rouge. Ce sont des marqueurs hépatiques. Ce sont des hépatocytes. Vous avez des marqueurs hépatiques. D'accord ? Dans la partie basse ici, vous avez des gènes qui fonctionnent soit dans les progéniteurs biliaires, soit des gènes qui sont à très haute prolifération. Donc ils sont bleus, ils ne fonctionnent pas. Dans les hépatocytes, les gènes qui sont associés à des progéniteurs biliaires, donc des canaux, des ductes, ne fonctionnent pas, évidemment. Donc c'est bleu. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un profil d'expression. Vous avez ici des hépatocytes normaux, pas d'organoïdes. Ces hépatocytes, comme on s'y attend, expriment tous ces gènes qui sont spécifiques aux hépatocytes et n'expriment pas ces gènes, sauf celui-ci, qui est bizarre d'ailleurs, n'expriment pas ces gènes qui sont, eux, spécifiques aux cholangiocytes. D'accord ? Eh bien, ce que vous voyez en fait sur la gauche, c'est des cholangiocytes. Ces trois lignes sur la gauche sont en fait des lignes de cholangiocytes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez que les cholangiocytes sont extrêmement spécifiques. Des organoïdes de cholangiocytes. Ils n'expriment aucun des marqueurs associés aux hépatocytes. Évidemment, ce sont des organoïdes de cholangiocytes. Ce sont des organoïdes qui sont poussés à partir de cellules épithéliales qui font les ductes collecteurs. Ce ne sont pas des hépatocytes, c'est bleu. Vous voyez que dès qu'on rentre dans la zone marqueur de cholangiocytes, des progéniteurs biliaires, c'est rouge. Donc ce sont des organoïdes qui sont très spécifiques. Ils reflètent très bien le... Quand vous regardez par contre les organoïdes hépatiques, eh bien vous voyez qu'en fait, ils sont très spécifiques dans la partie haute, c'est-à-dire que ces organoïdes hépatiques, ils expriment des marqueurs des hépatocytes. Ça, c'est normal, on s'y attend. Mais vous voyez qu'ils sont moins discriminants. Ils expriment aussi pas mal. Vous voyez, c'est moins... Ici, ça devrait être bleu, ça devrait être comme ça. Mais ce n'est pas bleu, il y a des petits traits rouges un peu partout. Ça veut dire que ces organoïdes dérivés d'hépatocytes, en fait, sont un peu contaminés, contiennent probablement des cellules ou ne sont pas encore complètement différenciées, où il y a des, etc., une contamination de type biliaire. On voit ici des gènes qui s'expriment qu'on ne devrait pas trouver. Vous voyez que vous ne trouvez pas là. D'accord ? Donc les marqueurs hépatiques sont très spécifiques aux hépatocytes. On ne les trouve pas ici. Par contre, les marqueurs biliaires sont moins spécifiques aux cholangiocytes parce qu'on en retrouve quelques-uns ici. Est-ce que c'est clair ? Donc, oui. Donc c'est pas. Vous voyez que le système est un peu quand même poreux, hein, mais poreux dans un sens. Poreux seulement dans un sens. Les organoïdes à partir de cholangiocytes sont extrêmement bien, extrêmement spécifiques, mais pas les autres. Alors ces organoïdes hépatocytes, en fait, ce sont des mélanges de cellules assez hétérogènes, contrairement aux organoïdes de cholangiocytes que je viens de vous montrer. Et pour mesurer cette hétérogénéité, on peut faire appel à une technologie qui est une technologie vraiment récente, pratiquement une année, en fait. Et c'est vraiment là-dedans que les gens se lancent actuellement. Alors, évidemment, tout ce qui est très récent n'est pas totalement évident à expliquer. Mais finalement, encore une fois, le principe est assez simple. Ce qu'on va faire, on va prendre ces organoïdes, on va faire une suspension cellulaire, séparer chacune des cellules, et on va séquencer l'ARN de chacune de ces cellules. Donc ce qu'on va faire, c'est du séquençage d'ARN d'une cellule unique. En termes technologiques, c'est phénoménal. Il y a encore une dizaine d'années, il fallait des millions de cellules pour avoir à peu près une collection d'ARN correcte. Aujourd'hui, c'est une cellule. Et donc ce qu'on peut faire, c'est que chaque cellule... on va séquencer son ARN, c'est-à-dire on va avoir une carte d'identité de chaque cellule par la quantité et la qualité des ARN qu'elle exprime. C'est tout ce qu'on fait. On ne sait pas quelle cellule on séquence, on n'a aucune idée. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait une suspension cellulaire et on séquence toutes les cellules. C'est massif. Bien, quand vous faites ça, vous obtenez une carte où chaque point va représenter une cellule, ou dans ce cas particulier, un organoïde, en fait, on passera plus tard. Et vous voyez qu'on a ce qu'on appelle des clusters. Donc, on fait des groupes, on ne sait pas vraiment à quoi ils correspondent, ces groupes, quand on les fait. Mais ce sont des groupes, c'est-à-dire que ce point-là a une composition en ARN qui est très proche de ce point-là, très proche de ce point-là, très éloigné de ce point-là. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'ordinateur vous reconstruit une carte de cluster, de groupe. Ensuite, vous pouvez aller chercher quel genre d'ARN vous trouvez ici, quel genre d'ARN vous trouvez là, et puis vous pouvez définir ces groupes. Par exemple, si vous trouvez de l'ARN dans ce groupe-là, de l'ARN pour l'albumine, ben vous savez que c'est un groupe d'hépatocytes. D'accord ? Si vous trouvez ici de l'ARN pour une kératine de cholangiocytes, vous savez que c'est un groupe de cholangiocytes. Mais ça vous forme des groupes. Donc vous savez combien vous trouvez de clusters. Et si vous regardez dans des organoïdes hépatiques, vous voyez que vous avez 5 clusters différents, en fait. Un groupe ici, un groupe là, un groupe ici. Ce n'est pas vous qui les faites, hein. C'est un logiciel qui vous fait ça. Vous pouvez me dire, oui, mais ce groupe-là, pourquoi il descend comme ça ? C'est le logiciel qui vous reconstruit ces groupes et qui vous dit quand même que ce point-là est plus proche de celui-ci que de celui-là. Plus proche, non pas en distance, hein, plus proche en contenu quantitatif, qualitatif de ces ARN. D'accord ? Et après, on peut regarder quel type de cluster on a. On voit ici qu'on a des progéniteurs d'hépatocytes, en vert, en bleu. Vous avez ici des hépatocytes qui sont mûrs, donc des vrais hépatocytes dans cette couleur. Là, vous avez des cellules qui sont plus primitives. C'est ce petit cluster ici de cellules roses. Plus primitives, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marqueur de différenciation, vous voyez, ce genre de choses. Donc, vous pouvez commencer à classer les différents types cellulaires que vous trouvez dans ces organoïdes. Et ça, c'est effectivement extrêmement important aussi si on pense à des essais thérapeutiques futurs, parce que quand il va s'agir de traiter ces organoïdes avec une molécule ou l'autre, il faut savoir la composition en ADN, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir la composition en ARN, on en parlait aussi, mais le problème, c'est que si ces organoïdes sont hétérogènes, s'ils sont composés par des cellules différentes, il faut savoir lesquelles sont là et comment vont répondre ces cellules différentes. Parce que rien ne vous dit que dans un essai thérapeutique, ce cluster ici va répondre de la même façon que ce cluster ici. Donc c'est une étude qui est assez utile à faire. Et puis finalement, ce que font ces auteurs, pour terminer, c'est simplement de regarder à quoi ressemblent ces hépatocytes, ces organoïdes d'hépatocytes, après une hépatectomie partielle. Donc l'idée est assez simple. Travaille maintenant avec des souris, bien entendu. On prend une souris, on fait une hépatectomie, ici cette souris, et puis on va perfuser une souris contrôle, bien entendu, toujours pour avoir le témoin, hein, donc il n'y a pas eu d'intervention. On va sortir les hépatocytes, on va faire des organoïdes. Et puis ensuite, on va faire toute une série d'analyses où on va comparer les souris où il n'y a pas eu d'hépatectomie, les souris juste après l'hépatectomie et les organoïdes. D'accord ? C'est les trois points qu'on regarde. On regarde les hépatocytes normaux, sans rien. On fait l'hépatectomie, on prend un échantillon pour voir la réaction immédiate. Et puis on regarde sur les organoïdes. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est très simple. Vous voyez toujours que les deux images sur la droite sont relativement similaires et différentes de celles sur la gauche, en fait. Vous voyez que sur la gauche, vous avez les hépatocytes de départ, vous avez juste après l'hépatectomie, et vous avez les organoïdes. Et donc la conclusion, c'est que les organoïdes hépatiques de souris, qui sont dérivés donc d'hépatocytes, hein, c'est toujours ce même protocole, sont relativement similaires à des hépatocytes post-hépatectomie. D'accord ? Et ça, c'est une conclusion qui est assez intéressante, parce que ça veut dire qu'en fait, ces organoïdes sont toujours dans un état de réaction à un stress. Hein, on est dans une phase de croissance, on est exactement dans la même phase qui suit une phase d'hépatectomie où il y a une réaction du foie, il faut repousser, il faut refaire. Et ben, les organoïdes, en fait, sont dans cette phase-là. D'accord ? Alors après, ils regardent certains marqueurs, et la seule raison pour laquelle je voulais vous montrer cette image, en fait, c'est pour vous montrer ces petits canaux ici. Alors là, on est encore dans un organoïde d'hépatocyte, dérivé d'hépatocyte, mais cette fois, vous voyez ici, qui est dérivé d'origine de cellules d'origine fœtale. Hein. C'est la troisième source dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et en fait, vous voyez que sur ces organoïdes, on commence à avoir ici des structures en canaux, des petits ductes, qui sont en fait positifs pour une coloration d'un marqueur qu'on appelle MRP2 et qui est typique des voies biliaires. Donc ce que l'on voit sur ces organoïdes, en fait, c'est que toujours, hein, cette auto-organisation dont on a beaucoup parlé, sont des organoïdes qui, même en partant d'hépatocytes, sont capables tout de même de faire un semblant d'arborescence biliaire pour pouvoir commencer à récolter la bile, etc. Donc on commence tranquillement à s'organiser. Alors ce qu'ont fait ces auteurs, c'est finalement la dernière chose de cette publication, c'est de se poser la question, ces hépatocytes, est-ce qu'ils peuvent intégrer un foie ? Et le cas échéant, est-ce qu'ils peuvent se développer ? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dedans, produire quelque chose ? Et c'est ce que vous voyez là. Alors je ne vais pas non plus insister là-dessus, mais vous avez ici un foie de souris qui est un foie de souris qui est une souris immunodéficiente, hein, évidemment. Ce sont des souris, des souches de souris qui existent dans lesquelles on peut faire ces expériences parce qu'elles n'ont pas de phénomène de rejet. Et puis ces cellules, ces organoïdes sont transplantés. Et vous voyez, ce que vous voyez là, c'est l'état à 90 jours post-transplantation. Et en fait, ces cellules, contrairement à l'idée qu'on en a ici, ont très bien intégré le foie. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un marqueur humain, c'est de l'albumine, c'est un anticorps contre de l'albumine, mais contre l'albumine humaine. Donc c'est un anticorps qui ne reconnaît pas l'albumine de souris. D'accord ? Donc on voit juste où se trouvent des cellules humaines. Mais je pense que si on avait ici une section sans fluorescence, on aurait peut-être de la peine à voir où se trouvent les cellules humaines, parce qu'elles ressemblent à des hépatocytes. D'accord ? Et donc, les auteurs concluent, en fait, que lorsque l'on transplante ces organoïdes d'hépatocytes dans des souris immunodéficientes, alors ça, on les transplante dans la rate, hein, puis après, elles transitent, bon, on voit très bien cette intégration avec ces petits nodules positifs pour l'albumine. Et puis, de façon plus intéressante, encore, qui n'est pas montré là, c'est qu'en fait, l'alpha-phytoprotéine, qui est donc ce marqueur d'un état fœtal des hépatocytes ou d'un état tumoral, ce marqueur disparaît. Donc, on injecte des cellules qui expriment de l'alpha-phytoprotéine, et puis 90 jours plus tard, 90 jours plus tard, ces cellules ont intégré le foie de la souris, et l'expression de l'alpha-phytoprotéine a disparu. Ce qui est pris par les auteurs comme une sorte de démonstration d'une normalisation, en fait, de ces cellules, qui ne sont plus à un état fœtal, mais qui maintenant sont différenciées en hépatocytes. Et ça, ce sont les conclusions de la publication. Ils disent, voilà, les hépatocytes humains peuvent être produits est maintenu à long terme. Les organoïdes hépatiques contiennent des hépatocytes différenciés ainsi que des cellules précurseurs. C'est pour ça qu'elles ont des marqueurs qui ne sont pas uniquement des marqueurs d'hépatocytes, hein, souvenez-vous. Les organoïdes hépatiques murins dérivés d'hépatocytes reflètent un état régénératif post-hépatectomie, c'est ce que je viens de vous montrer. Ce ne sont pas des organoïdes d'hépatocytes complètement adultes, différenciés, qui ont fini. Non, non, ils sont dans un état de réaction au stress, comme quand on les trouve juste post-hépatectomie. Et puis les organoïdes hépatiques humains dérivés d'hépatocytes peuvent être greffés et s'intégrer dans un foie de souris. Voilà, maintenant je voulais juste passer 5 dernières minutes pour vous parler d'un cas assez intéressant, beaucoup plus simple, qui est un syndrome génétique qui s'appelle le syndrome d'Alagil et qui illustre une autre utilisation possible de ces organoïdes de foie. C'est un travail, encore une fois, qui est assez récent. Et l'idée est extrêmement simple. Comme pour les organoïdes de type tumoral, comme pour les tumoroïdes, l'idée, c'est est-ce que l'on peut, similaire à ce que je vous montrais sur les mini-cerveaux de cette microcéphalie, qui était un problème génétique, hein, souvenez-vous, est-ce que l'on peut dériver des organoïdes de foie de patients qui ont un syndrome qui affecte le foie? Et puis si on peut le faire, est-ce que c'est utile pour quelque chose? Est-ce qu'on peut les utiliser pour essayer de comprendre quelque chose? Et donc, ces auteurs s'intéressent à un syndrome particulier qui est le syndrome d'Alagil, ALGS. Et je vais revenir dans une minute sur ce qu'est ce syndrome particulier. Et donc, ils mettent au point un protocole qui est, alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui est un protocole en partant cette fois de cellules iPS. La troisième source que je vous mentionne aujourd'hui, hein, on a parlé d'origine adulte, on a parlé d'origine fœtale. Maintenant, on est retour aux iPS. Hein, c'est-à-dire, parce qu'évidemment, un patient qui a un syndrome avec un effet mineur sur le foie, on ne va pas aller lui faire une biopsie juste pour le plaisir de dériver des organoïdes de foie. Donc l'idée, c'est vraiment de shunter ça et de faire des iPS. Parce que ce patient, au lieu de lui prendre un morceau de foie, on va tout simplement lui prendre un petit morceau de peau. D'accord ? Donc, prends un morceau de peau, cellule iPS, et puis des conditions de milieu particulières qui font qu'on passe par un stade endodermique très primitif, parce qu'encore une fois, le foie, c'est une glande du tube digestif, donc qui démarre d'un organe endodermique, hein, comme le pancréas, ça bourgeonne du tube digestif, en fait, hein, du tube digestif fœtal. Et puis ensuite, production d'hépatoblastes, ici, et puis premier type d'organoïdes, on change le milieu, souvenez-vous, on refait une suspension cellulaire, deuxième milieu, on différencie, hein, protocole classique. Et ces auteurs, en variant un peu le protocole, si ça vous intéresse, regardez-le en détail, mais je vais passer dessus, arrivent finalement à produire ces organoïdes qui ne sont pas des organoïdes d'hépatocytes, hein, qui sont des organoïdes hépatiques complets à partir de cellules iPS. Alors juste pour vous dire que pour passer de ce point-là à ce point-là, où c'est complètement différencié, eh ben, il faut rajouter le petit cocktail habituel, un inhibiteur de BMP, WNT, inhibiteur TGF, EGF, FGF10. Maintenant, vous connaissez tous ces cytokines, hein, tous ces facteurs. Voilà. Alors, en faisant ça, eh bien, ils obtiennent effectivement des organoïdes à partir de cellules iPS. Et ces organoïdes sont, ma foi, tout ce qu'il y a de plus convenable. Hein. Alors, je ne vais pas revenir sur ces... Peut-être... sur ces marqueurs, mais on progresse. Voilà ici la morphologie de ces cellules humaines iPS. Hein, ce sont des cellules très denses, vous voyez, ça fait des sortes de tapis en culture. Hein. On commence le traitement. Après 3 jours, vous voyez, on commence à avoir des structures. 6 jours, 9 jours, et là, c'est là qu'on est bloqué ici. Donc, on prend ces structures-là. on fait des suspensions, changement de milieu, on repart, et là on commence à avoir des organoïdes magnifiques, hein, avec tous les marqueurs classiques, etc., hépatocytes, cholangiocytes. Bon, voilà. Alors une fois ça établi, ben, ils se disent, on va regarder si on peut dériver ces organoïdes de patients allagiles. Alors le syndrome d'allagiles, c'est un syndrome qui est intéressant. C'est un syndrome qui montre un défaut dans le développement des voies biliaires. Le foie a l'air normal, les hépatocytes ont l'air normaux, mais il y a beaucoup moins de cette arborescence de petits vaisseaux qui vont apporter la bile dans le tube digestif. C'est un syndrome, ça veut dire qu'il touche beaucoup d'endroits différents. Il y a une cardiopathie, il y a un faciès qui est reconnaissable, une déformation des vertèbres, une anomalie oculaire, etc., etc. Malheureusement, un syndrome assez sévère. C'est un syndrome qui est caractérisé par une cholestase chronique parce que justement, il y a un défaut de sécrétion de bile. Il n'y a pas assez de bile qui arrive dans le duodénum. Et alors, voilà le point le plus intéressant, la raison pour laquelle j'ai choisi cette publication, c'est que l'étiologie de ce syndrome, très souvent, est liée à des mutations soit dans un gène qui s'appelle JAG1, soit dans un gène qui s'appelle NOTCH2. Or, souvenez-vous, NOTCH, on en a parlé, c'est un système qui fait que les cellules se parlent, mais elles ne se parlent pas en s'envoyant des messages. Elles se parlent en se touchant. Elles s'envoient un message, mais en se touchant. Autrement dit, il n'y a que des cellules qui se touchent qui peuvent communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer avec une cellule qui est 5 cellules plus loin. Enfin, il faut se toucher. Ce n'est pas comme la voix Wnt ou comme vous avez un ligand qui voyage et puis qui va reconnaître un récepteur. Okay ? Et la façon dont ça fonctionne, bon, on en a déjà parlé, vous avez une cellule en haut, une cellule en bas. La cellule en bas a un récepteur transmembranaire qui s'appelle NOTCH. D'accord ? Et puis ce récepteur va toucher une autre protéine membranaire qui s'appelle JAGD. Alors, il y a d'autres ligands pour NOTCH. Hein. On a parlé aussi, souvenez-vous, on a parlé d'une autre protéine qu'on appelle DELTA. C'est les deux ligands connus pour NOTCH. Hein. DELTA et JAGD. D'accord ? Eh bien, il se trouve que le syndrome... Alors, juste pour la petite histoire, une fois que vous établissez le contact entre cette protéine et cette protéine, eh bien, il y a une chaîne d'événements qui conduit à la protéolyse de cette protéine ici, et ce petit morceau à l'intérieur, il est coupé. Et donc, il se balade, il va rentrer dans le noyau et il va contrôler l'expression des gènes. C'est un système qui est magnifique. Hein. Ça marche toujours comme ça, en fait, les voies de signalisation. À l'arrivée, vous avez toujours quelque chose qui rentre dans le noyau pour activer les gènes. Mais la façon dont ça va rentrer dans le noyau est très différente. Vous pouvez avoir, on a discuté précédemment de kinases, souvenez-vous, les tyrosines kinases, vous allez phosphoryler une protéine qui va faire ci, qui va faire ça. Là, c'est assez simple, finalement. Un signal ici, ça va se mettre à bouger un peu, hop, ça va couper ici, et ce morceau-là, libéré, va rentrer dans le noyau. En gros, c'est ça. D'accord ? Eh bien, vous voyez que si on mute dans cette partie-là, ou si on mute dans cette partie-là, on obtient le même syndrome qui est le syndrome d'allagiles. C'est normal, parce que vous mutiez cette protéine-là ou cette protéine-là, l'effet est le même. Vous interrompez la communication, en fait. C'est-à-dire, soit vous mutez dans le ligand, soit vous mutez dans le récepteur. L'effet est souvent le même. Cet effet, en fait, il a été beaucoup discuté dans la littérature. Et c'est pour ça que ces gens-là se sont intéressés à ce cas particulier, parce qu'il y a eu des discussions sur le fait de savoir si l'effet observé était dû à une implo-insuffisance ou à un effet dominant négatif. Alors, ça peut vous paraître un peu abscon, mais en fait, encore une fois, c'est relativement simple. Quand vous mutez une protéine et que vous voyez un effet qui est un effet hétérozygote, vous savez que dans la plupart des cas, on ne voit pas d'effet hétérozygote. chez les humains, en tout cas. On parle de gens qui sont porteurs sains, parce que quand vous avez une copie d'un gène qui est abîmé, l'autre copie est suffisante, en règle très générale, pour faire le travail. Parfois, une seule mutation dans une copie vous donne un problème. C'est le cas du syndrome d'Alagille. D'accord ? Donc malgré, bien que cette personne, le patient, ait une copie parfaitement normale de ses récepteurs, ce patient développe ce syndrome. Et donc généralement, il y a deux façons d'expliquer ça. Soit on peut dire que c'est une haploinsuffisance, autrement dit, la dose générale de produit qui est faite est trop basse, et ça crée un problème. Bon, il n'y a pas énormément de cas de ce genre, parce qu'on a évolué quand même des systèmes qui sont assez robustes, dans le fond. Hein, on sait bien jouer avec les doses, on est toujours un petit peu au-dessus de ce qu'il faut, finalement. Mais ça existe. L'autre façon de l'expliquer, c'est de dire, en fait, la mutation produit une protéine qui va empoisonner le système. Et c'est ce qu'on appelle un dominant négatif. Hein ? Donc, soit vous enlevez une protéine, la moitié de la dose, et vous avez un effet, une haploinsuffisance. Soit vous produisez une protéine qui est nocive pour le système, c'est un dominant négatif. Ces deux, vous me direz, pour le patient, c'est kiff-kiff. Le patient, il s'en fiche. Il a son syndrome. Mais quand vous pensez à des façons éventuellement de traiter ce qu'on peut faire, etc., c'est quand même assez différent. Par exemple, si vous avez une haploinsuffisance, on peut réfléchir à des systèmes qui pourraient apporter un peu plus de doses. Si vous avez un dominant négatif, on peut réfléchir à des systèmes qui consisteraient plutôt à essayer d'annuler ce dominant négatif. Donc, c'est des approches différentes. Donc, il faut savoir ce que c'est. Et donc, ce syndrome qui est observé en postnatal, hein, donc le foie ne peut pas assurer le développement des canaux biliaires, alors production d'organoïdes hépatiques à partir de patients LGS, ces patients, en fait, les auteurs s'aperçoivent rapidement qu'ils ne peuvent que très peu générer ce qu'ils appellent les HO2, donc c'est-à-dire les bons organoïdes qui viennent après le changement de milieu. Hein. Vous vous souvenez, vous faites des cystes, puis après vous mettez la différenciation, puis hop, ça, ben là c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'ils ne sont pas capables, apparemment, de produire ces différents types cellulaires qui vont faire ces organoïdes. Alors l'expérience qu'ils font, elle est assez complète finalement. Et je vais terminer là-dessus aujourd'hui. C'est assez complet. Hein. Ce qu'ils font, c'est la chose suivante. Ils prennent d'abord des organoïdes de cellules iPS normales. Ça, c'est ce qu'on appelle le témoin négatif. Donc, ils prennent deux personnes, C1, C2, et puis ils dérivent des organoïdes à partir de cellules iPS pour avoir la ligne de base. Ensuite, ils dérivent deux cultures de cellules iPS de deux patients différents. D'Alagille, un patient qui est muté dans JAG1 par une mutation qu'on appelle un stop. Autrement dit, vous avez la protéine, et ce patient a eu une modification extrêmement mineure dans cette protéine, mais qui arrête. Donc cette protéine commence, elle commence à être produite, elle stoppe. C'est une mutation qu'on appelle une perte de fonction, c'est une mutation stop. L'autre mutation est équivalente dans le résultat, mais un peu différente. C'est l'épissage du gène qui est modifié, donc l'ARN est recombiné d'une façon un peu différente, la protéine n'est pas produite. Donc dans les deux cas, il manque la moitié de la protéine, la moitié en dose de la protéine. Un des deux allèles, un des deux chromosomes, ne produit pas cette protéine. Et puis ensuite, ces auteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces cellules-là, des témoins, et ils vont aller muter ces cellules par le CRISPR-Cas9, donc par ces outils moléculaires qu'on utilise aujourd'hui, et ils vont introduire dans ces cellules la même mutation qu'il y a dans le patient. D'accord ? Pour voir, alors la question, la raison invoquée, c'est la suivante, Comment peut-on être sûr chez ce patient que la mutation qu'on voit est la seule mutation en cause pour déclencher son syndrome? Comment est-on sûr qu'il n'y a pas 36 autres mutations dans le génome de ce patient qui font qu'ensemble, ce patient développe tout d'un coup le syndrome d'Alagille? Est-ce que c'est simplement parce qu'on voit une modification dans ce gène JAG1 qu'on peut dire « c'est JAG1 le responsable » Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cellules normales et on va faire une mutation ciblée uniquement dans JAG1 cette fois. Alors évidemment, on ne peut pas produire un patient à partir de là. C'est ce qu'il faudrait, dans le fond. Mais on peut produire un organoïde et voir si cet organoïde présente les mêmes problèmes que présentent les organoïdes dérivés du patient qui a, entre autres, cette mutation. Et puis, finalement, ils produisent ce même patient avec une correction. Autrement dit, ils prennent les cellules iPS du patient qui est atteint par le syndrome et plutôt que de prendre des cellules iPS normales et d'introduire la mutation, avec ce même système CRISPR, ils vont corriger la mutation qu'il y a dans le patient. D'accord ? Donc là, c'est là, si vous voulez, c'est le questionnement inverse. Ils se disent, si je corrige cette mutation dans ce gène JAGD et que je corrige le phénotype dans les organoïdes, ça veut dire que c'est JAG. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose ailleurs qui fait que. Donc c'est une approche qui est quand même assez solide, si vous voulez, expérimentalement parlant. Puis cerise sur le gâteau, ils font une dernière chose, alors c'est un peu plus compliqué, c'est qu'ils isolent aussi une culture de cellules iPS dans laquelle ils ont corrigé le gène JAGD, mais dans laquelle ça n'a pas marché. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est que vous avez sans doute entendu parler du fait que le CRISPR-Cas9, c'est cette chirurgie génétique, si vous voulez, très souvent induit ce qu'on appelle des off-targets, c'est-à-dire des modifications qu'on ne souhaite pas ailleurs. Donc ils se disent peut-être une bonne façon de vérifier ça, c'est de faire comme si on corrigeait, mais en fait on va choisir un clone de cellule dans lequel ça ne s'est pas passé. Mais si on a autre chose, il y aura autre chose. D'accord ? Bon, voilà. Alors, pour vous la faire courte, ils analysent maintenant toutes ces différentes situations et ils s'aperçoivent de la façon suivante, donc ce qu'on appelle le readout, c'est-à-dire le paramètre qui est mesuré dans ces expériences, c'est en fait la quantité de vésicules liquides entourées de cellules qui ressemblent à des hépatocytes différenciés, qui sont produites. Et ces vésicules remplies de flottes entourées de pseudo-hépatocytes sont en fait le phénotype alligile qu'on trouve dans les organoïdes. Ce n'est pas normal. D'accord ? Donc si vous prenez par exemple C1, c'est normal, hein, le patient normal, vous voyez que ça vous produit un organoïde qui va être un bel organoïde. Bon. Quand ce C1 est muté, vous voyez, vous commencez à voir apparaître ces vésicules remplies de flottes. Pareil, avec ici, vous avez le REV-CONV. Autrement dit, c'est les cellules iPS dérivées d'un patient mutant dans lequel on a essayé de corriger, mais on n'a pas corrigé. Donc ces cellules sont malades. Donc, vous produisez un organoïde qui a ces grands cystes, là, vous voyez ces trucs. Okay. À droite, ici, vous voyez une cellule iPS qui était dérivée d'un patient alligile, donc qui souffre, qui a un syndrome. Mais cette fois, dans lequel on a corrigé la mutation dans le gène JAGD. Hein, et vous voyez que maintenant, c'est dense. Il y a beaucoup moins de ces vésicules. D'accord ? Alors, sur la droite, ici, ils ont simplement comptabilisé le pourcentage de vésicules. Bon, c'est assez cru, comme, okay. Mais vous voyez très bien le résultat. Hein. Patient normal, cellule iPS. Ici, vous avez un mutant. Donc, là, en brun, vous avez la quantité de vésicules. Hein. Donc, vous voyez, normal, 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 anormal, anormal, anormal. Pour regarder les trois qui sont anormaux ici, qui ont pratiquement 90% de vésicules, eh bien, c'est les cellules iPS normales qu'on a mutées, quand la mutation dans JAG, c'est cassé. Vous avez ces cellules-là qui sont les deuxièmes cellules normales qu'on a mutées, et puis ces cellules-là qui sont les cellules dérivées du patient qu'on a essayé de corriger mais qu'on n'a pas pu. D'accord ? Autrement dit, il semble vraiment que le problème qui est observé chez ces patients qui souffrent du syndrome d'Alagille est dû au gène JAG1. Alors maintenant, on peut discuter pendant longtemps si on le savait, s'il y avait besoin de faire ça. Encore une fois, on est toujours à la marge entre une découverte fondamentale et une preuve de principe. Et là, je pense qu'on est vraiment un peu entre les deux. Je pense qu'il y avait des évidences assez claires dans la littérature qui montraient que ça devait être JAG1, Notch, etc. C'est quand même bien d'avoir un système où on peut le démontrer de façon formelle, et puis un système dans lequel on peut maintenant regarder un peu ce qui se passe. Alors, dernière chose que je veux vous montrer, c'est leur conclusion, parce qu'évidemment, c'est toujours intéressant. Ils disent, si on regarde la grande majorité des mutations qui donnent lieu à ce syndrome d'Alagille, etc., et nos résultats concernant les organoïdes, donc toute cette étude, indiquent que les ALGS, donc les patients, les foies qui souffrent de ce syndrome, probablement le sont par l'intermédiaire d'un gain de fonction dominant. Et là, je dois dire que je n'ai pas compris cette conclusion. Je n'ai pas vraiment compris ce qui, dans ces résultats, clarifiait ce débat entre une haploinsuffisance et un gain de fonction. Bon, c'est une perte de fonction de la protéine. On se retrouve avec la moitié de la protéine. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, j'en profite pour faire une remarque qui est extrêmement curieuse, en fait. C'est quelque chose qui est dans l'air, finalement, depuis une vingtaine d'années. La raison majeure pour laquelle ces gens-là proposent que c'est un gain de fonction, c'est que lorsque vous enlevez une copie de ce gène chez la souris, donc lorsque vous prenez une souris et que vous enlevez carrément le gène JAG1, donc vous avez maintenant une souris qui n'a qu'une copie du gène JAG1, eh bien il n'y a absolument aucun phénotype. Ces souris ont un foie qui est parfaitement normal, n'ont pas du tout de traces du syndrome. Et donc ça, c'est l'argument principal qu'ils utilisent pour dire ça ne peut pas être une haploinsuffisance puisque chez la souris, quand on enlève une copie du gène, il n'y a pas de syndrome. Et ce que je voulais vous dire ici, en fait, c'est quelque chose qui est sous-étudié à l'heure actuelle, à mon avis, mais qui est vraiment dans l'air, c'est qu'il y a de plus en plus de ces cas de figure, en fait, où l'on a une équivalence génétique entre la souris et l'homme dans des mutations qui sont homozygotes chez la souris, hétérozygotes, donc haploinsuffisantes chez l'homme. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, ce serait parce qu'elle est longue, surtout. Mais ça a commencé dans les années 96, je me souviens très bien, avec un type de polydactylie, qui est une maladie génétique assez courante, hein, où les enfants naissent avec 6 doigts, voire parfois même 7 doigts. Eh bien, cette polydactylie, qui touche la même mutation dans le même gène, s'exprime de façon haploinsuffisante chez les humains et de façon homozygote chez la souris. Une souris qui est hétérozygote pour cette mutation n'a absolument aucun effet. Et je voulais terminer là-dessus pour dire que parfois on... Alors visiblement, ces gens-là ne doivent pas être au courant de cette littérature, mais il y a de plus en plus de ces cas, comme si en fait, c'est la suggestion que j'en tire finalement, comme si il pourrait y avoir entre les humains et les souris des différences dans les doses d'expression génétique qui soient relativement importantes. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est dû au fait qu'une souris vit à tout casser une année et demie, 2 ans, alors que nous, on vit quand même beaucoup plus longtemps ? Je pense qu'avec l'émergence maintenant du système CRISPR-Cas9, qui va nous permettre de faire des mutations dans d'autres mammifères, qui sont des mammifères intermédiaires en termes de longueur de vie, etc. Je pense qu'on pourra peut-être bientôt répondre à cette question qui, à mon avis, est une question vraiment extrêmement fondamentale et très, très intéressante. Voilà, je voulais arrêter là aujourd'hui et puis vous dire que la semaine prochaine, donc je parlerai uniquement des embryoïdes, des blastoïdes, des embryoïdes et des gastruloïdes. Je vous remercie.